Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de cette leçon en trois parties sur la perception et les risques côtiers. Alors maintenant, donc, vous êtes passé à travers les concepts, vous êtes passé à travers la méthodologie et le moment est venu de découvrir une étude de cas pratique, concrète. Je voudrais vous mettre en garde sur la découverte de l'étude de cas sans bien maîtriser à la fois les concepts et la méthodologie. Il me semble que c'est la forme un tout cohérent. Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les deux sections précédentes, eh bien retournez-y avant de continuer. Et si vous vous sentez à l'aise, eh bien, bonne vidéo. Ok, donc nous allons maintenant attaquer la troisième et dernière partie de cette leçon sur risque côtier, perception et construit social dans le cadre d'un module d'enseignement sur l'adaptation au changement climatique. Et cette troisième section, c'est un exemple, c'est ici que je l'espère en tout cas, le cadre conceptuel et la méthodologie que je vous ai présenté dans la section 1 et section 2 prendront tout leur sens. Alors, pour cette troisième partie, je vais commencer par une introduction, je vous présenterai l'étude de cas en question. Je ferai un bref rappel des concepts centraux et de la méthodologie afin que ceux qui n'ont pas fait toutes les parties de la leçon d'un coup aient un petit rafraîchissement de mémoire. Je vais vous présenter les résultats qui sont assez longs à discuter. Je vais conclure et puis à nouveau présenter quelques références et remercier les personnes et institutions qui m'ont soutenu dans ce travail. Donc pour l'introduction, en fait, nous allons présenter ici une étude de cas qui illustre les cadres conceptuels et méthodologiques présentés précédemment. Ce cadre conceptuel, ce cadre méthodologique, nous l'avons appliqué en fait dans 6 villes européennes, très diversifiées, des villes côtières. Et ici, je parlerai d'une qui a été le cas pilote, le cas de démarrage. Donc, c'est des résultats qu'on a obtenus dans la ville espagnole de Santander, et ce sont des travaux qui ont été conduits entre 2010 et 2013. Alors Santander, en quelques mots, c'est une ville portuaire du nord de l'Espagne. En fait, c'est le dernier abri pour les bateaux avant la traversée du golfe de Gascogne. C'est 380 000 habitants pour ce qui est de la commune au sens strict de Santander et Bassin de Blanc, une zone d'influence de 300 000 habitants. C'est la capitale de la région de Cantabrie, c'est le siège social de Banco Santander, qui est une des plus grosses banques du monde. C'est aussi le siège de l'université de Cantabrie, qui est une très grosse université, très brillante université espagnole. La ville borde et ferme au nord la baie de Santander, ce lieu refuge pour les bateaux avant la traversée du golfe de Gascogne. Et c'est une ville, en raison de sa localisation, qui est très exposée aux zones de tempête traversant l'Atlantique et tapant la côte européenne, mais aussi en raison du plateau du golfe de Gascogne, qui fait face à des vagues très importantes, et c'est pour cela qu'elle est un objet d'intérêt dans le cadre de questions liées aux risques côtiers et à l'adaptation au changement climatique, car on a démontré dans le cadre de ce projet que la fréquence des ondes de tempête importantes allait augmenter suite au changement climatique. Donc, dans cette ville, eh bien, nous avons pris notre cadre conceptuel, nous avons pris notre méthodologie, et nous sommes allés appliquer cela pour tenter d'explorer les questions de perception, de représentation et d'attitude. Alors, notre cadre conceptuel, un rappel rapide, les gens, lorsqu'ils se positionnent par rapport à un risque émergent, ont une attitude, c'est cette attitude qui va déterminer leurs actions, un cadre simplifié, et ces actions sont notamment des actions d'adaptation. Et ces attitudes, eh bien, elles vont être le produit d'un équilibre individuel et collectif entre des revendications de causalité, des revendications sur la nature du fonctionnement du risque, des revendications de pertinence, des revendications disant s'il est nécessaire ou pas, en raison des enjeux, de s'intéresser aux risques auxquels on s'intéresse, et des revendications normatives, c'est-à-dire des revendications sur la congruence de notre exploration et des mesures de réduction du risque que l'on envisage avec les valeurs du lieu. Et donc, ce que j'avais écrit dans la première partie de cette leçon, c'est l'interaction des trois causalités normes et pertinence, ainsi que l'importance respective, détermineront les attitudes. Et en fait, c'est ces interactions et ces importances respectives que l'on va essayer d'explorer en appliquant notre méthodologie. Et en quelques mots, vous vous souvenez que la méthodologie consistait en un échantillon non aléatoire, on allait chercher des acteurs spécifiques de différentes catégories, on conduisait des entrevues semi-dirigées et des focus groupes en utilisant une couverture aérienne, ici une capture Google Earth, c'est en leur demandant d'identifier des zones à risque et puis d'en parler avec seulement deux questions très générales pour nous permettre de générer un maximum de discours autour du risque côtier. Ensuite, nous avons fait un codage thématique du corpus généré afin de faire un exercice de théorisation un peu itérative en itérant du corpus vers notre cadre conceptuel. Ceux qui veulent plus d'indications méthodologiques se référeront à la deuxième partie de la leçon. Alors, voici ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont nos résultats. Alors, ces résultats, eh bien, la première étape, c'était d'identifier que les interviewés identifiaient les lieux à risque lors des entrevues. Alors, on voit ici, donc, Santander au sens strict, c'est ceci. Néanmoins, Santander et sa banlieue, sa zone d'influence, on voit que ceci, ici, on a des montagnes avec plus d'agriculture, et là aussi. Et donc, vous dites ce que c'est, bon, c'est la baie, une langue sableuse qui protège la baie, une presqu'île ici qui protège la baie également. Donc on voit bien que c'est une ville bien abritée en cas de tempête, mais que par contre la ville ici est fort exposée. Alors comme lieu sensible, il y a une plage ici, la plage qui s'appelle la Sardinière, qui est une grosse plage que vous utilisez. Il y a une petite plage ici, mais j'en parlerai après. Il y a un lotissement qui se trouve ici, il y a la langue sableuse elle-même, il y a une friche industrielle là, il y a un autre lieu de promenade ici. Je dis un autre parce que la friche industrielle est un lieu de promenade, mais moins joli. Il y a ici une zone qui est émergée à marée basse et qui sert à la pêche récréative, la pêche à pied récréative. Et puis on a ici une zone avec un aéroport et un port. Donc les gens nous ont montré ces endroits et nous en ont parlé. 12 personnes. Plus un petit groupe de 4 personnes, mais on les a laissés parler de chacun de ces endroits, de ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils y voyaient, comment ils envisageaient, comment ils se positionnaient. On voulait capturer quelles étaient leurs attitudes par rapport au risque côtier. Alors je vais vous donner quelques résultats comme ça. J'ai choisi les résultats en fonction de leur caractère illustratif de l'équilibre à rechercher entre revendications et des résultats et de l'interprétation qu'on peut faire de ces choses-là. Alors d'abord, la plage principale, la plage de la Sardinière. Alors c'est une plage avec une digue. Et ici derrière, on a un lotissement qui date des années 50 qui est très bas, parfois sous les niveaux marins. Et donc, il y a une plage, une digue qui protège un lotissement dans un bas-fond. Qu'est-ce que nous disent les gens? Eh bien, les gens nous disent assez clairement, avec leurs mots, et puis en espagnol, je peux dire en espagnol ici, qu'il faut protéger ce lotissement, que c'est indiscutable et que personne ne discuterait. Cette plage, comme cordon de protection et la digue correspondante, eh bien, c'est une nécessité. Ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que ce risque est pertinent. Il est pertinent de considérer ce système-ci pour minimiser le risque d'inondation. Là. Et puis, on avance dans l'analyse de ce qu'ils disent, et ce qu'ils nous disent aussi, c'est que l'expérience passée montre que si le niveau marin s'élevait ou si les ondes de tempête se multipliaient, eh bien, il y aura des inondations. C'est encore dans la mémoire des gens, des périodes où les digues ont été submergées, où il a fallu pomper l'eau pour la renvoyer là-bas. Et donc, pour eux, les questions de causalité sont assez claires, leur heuristique, leurs expériences personnelles transformées en cognition et en intelligence, eh bien, disent qu'il y a clairement une causalité là, le fonctionnement du risque est bien compris et ça correspond d'ailleurs à la façon dont les experts décrivent le risque. Et ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'en fait, cet endroit est déjà protégé par le nourrissement régulier de la plage, donc la plage s'érode, puis on remet du sable de façon à faire une zone tampon pour empêcher les inondations, et donc ils disent que la protection par nourrissement a déjà lieu, qu'elle est bien acceptée, et que donc en fait, une gestion de ce risque est totalement en congruence avec les valeurs de la société. On est dans un cas que je qualifierais d'ordinaire, sans enjeu. Hein. Il faut s'en occuper, tout le monde est d'accord. On sait comment ça marche et ce qui est en danger. Et ça ne heurte pas les valeurs. Et donc, typiquement, je pourrais dire qu'ici, que ce risque va être gérable. Voici un zoom sur la plage de Sardinière avec le lotissement derrière. Eh bien, ce risque est gérable en consensus. Et d'ailleurs, ils ont déjà une modalité de gestion. Ils nourrissent la plage et, si nécessaire, ils envisagent même d'accepter d'élever la digue que j'en vois ici. Donc, premier exemple, pas d'histoire. Deuxième exemple, c'est sur l'image du début ici, ce lotissement-là, qui est un lotissement assez luxueux, les pieds dans l'eau. Et il y a une petite plage qui protège ce lotissement, qui est érodé, et en raison d'érosion et des eaux de tempête, et bien, le lotissement est régulièrement inondé. Donc ici j'écris protégeant un lotissement du pied dans l'eau. Et il est clair qu'en mettant un lotissement ici, les promoteurs immobiliers savaient ce qu'ils faisaient. Et ils exposaient ces maisons au risque d'inondation. Et les acheteurs devaient être conscients aussi, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas tant moi qui déclare que les gens qui étaient intéressés. Et donc, que sort-on des entrevues? Qu'est-ce que nous disent les gens en termes de pertinence, causalité, norme? Il y a une liste que ce lotissement présente des ressources importantes. C'est du bâtiment, c'est du beau bâtiment, c'est luxueux, et qu'en fait, il est pertinent de se poser des questions sur ce, sur le risque associé à l'érosion de cette lave, etc. Ils nous disent aussi que l'expérience montre qu'une élévation du niveau marin ou la multiplication des taux de tempête provoquera des inondations. Ils savent qu'il y a déjà des inondations lors des événements extrêmes. S'il y a plus d'événements extrêmes, eh bien, typiquement, la causalité elle est établie à partir des risques individuels et en concurrence avec les inquiétudes que l'on a. Mais, au niveau des normes, quelque chose ici s'introduit. Ce qu'on ressort de l'analyse des corpus, c'est que les gens disent les gens qui ont construit là, les gens qui se sont installés là, l'ont fait en dépit du bon sens. Ils se sont en fait appropriés un espace dont la communauté trouvait que c'était plutôt un espace public, la plage, en s'y installant trop près. Et donc, il y a là une tension qui s'installe, parce que ce qu'on entend, en tout cas dans une proportion sérieuse des interviewés, c'est qu'une gestion de ce risque mobilier dans des ressources collectives, ce serait pas juste. Ce serait pas juste parce que ces gens, en fait, ont capturé une rente en se localisant ici, mais en prenant un risque associé, et que maintenant, s'ils demandent des moyens collectifs, le mot qu'on utilise, ce n'est pas juste, ce n'est pas convenable, ça ne se fait pas des mots que les gens utilisent. Et donc ici, on est dans un cas différent du cas précédent. Si les gens sont d'accord sur la pertinence de la protection de cet objet-ci, si les gens sont d'accord sur le fait que cet objet-là va être inondé, eh bien, en fait, il y a une tension au niveau des revendications en termes normatifs. Il va falloir résoudre ces tensions. Il va falloir résoudre ces tensions et se demander, oui, c'est un objet important, oui, il va être inondé, mais si on s'en occupe en mobilisant des ressources collectives, ce ne sera pas juste. Or, pour l'instant, c'est plutôt des ressources collectives qu'on a en train d'utiliser pour protéger ce genre d'endroit. Et donc, l'équilibre entre revendication causale, de pertinence et normative, eh bien, c'est ce qui va déterminer les attitudes des acteurs par rapport à ce risque. Ces attitudes détermineront leur action et les actions détermineront l'exposition future du lotissement au risque. Je ne dis pas que ça va être géré ou pas géré. Ce que je dis ici, c'est que grâce à notre méthode, grâce à notre cadre conceptuel, nous identifions un lieu de sanctuaire, un lieu qui va demander une négociation. Sans quoi, la mécanique de gestion du risque pourrait se gripper en raison des tensions que nous observons. Troisième exemple. Une petite plage qui est ici, qui est une plage à fonction récréative et touristique, et qui est présentée par beaucoup des gens qui répondent comme la plus ancienne, d'ailleurs souvent ils disent aussi la plus jolie, plage de Saint-Anger, ici, protégée par la presqu'île. Et ce que les gens nous disent de cette plage, c'est une plage historique, et beaucoup de gens nous ont dit que cette plage, elle existe parce qu'elle a comme but unique d'illustrer des cartes postales. Et qu'en fait, ça les fait sourire. C'est pas vraiment que... En fait, les gens vont maintenant sur la plage de la Sardinière, s'ils veulent aller à la plage, c'est là qu'ils vont. Ici, c'est plutôt pour photographier, c'est plutôt un souvenir, c'est plutôt du patrimoine. Et lorsqu'on parle d'investir des moyens, parce qu'en fait, cette plage fait l'objet de tourisme, eh bien, ils se demandent si c'est vraiment pertinent en termes économiques. Ensuite, au niveau des causalités, ils voient bien que la plage est érodée, qu'il faut la nourrir, que quelque part une augmentation des ondes de tempête, une augmentation entraînera une augmentation d'érosion, que la plage sera détruite et qu'ils comprennent assez bien que ça puisse se passer. Et puis, quand on creuse un peu plus avec eux, ils disent oui, mais cette plage, c'est vrai qu'en termes économiques, c'est impertinent, mais ça fait partie de notre identité et nous avons toujours accepté de la gérer, d'investir des ressources dedans parce que. Ça va avec nos valeurs, l'idée de mettre l'argent dans cet objet qui n'en rapporte que peu. Donc ici, on a un cas un peu différent de la fois passée. Ce qui pose question, c'est la pertinence. Alors voici une autre vue de la plage, on voit un ancien clubhouse, et on voit son caractère un peu plus traditionnel, et on voit donc à la lumière de nos résultats que la dissonance naît des questions de pertinence, qu'on ne peut pas affirmer absolument que parce que jusqu'à présent on trouve ça pertinent, une augmentation des coûts de nourrissement liés à l'augmentation des zones de tempête fera qu'on continuera à nourrir. Il va falloir résoudre ces tensions et poser explicitement la question si quelle est la limite d'investissement des moyens pour conserver cette plage. Je ne suis pas capable de prédire l'avenir et je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Ce que je sais par contre, c'est qu'en explorant les attitudes des gens, leur perception, eh bien, je suis capable d'identifier cette plage comme une question qui va émerger suite au changement climatique. Et que cette question aura un caractère plus économique que moral ou lié à des questions de causalité. Voici pour le deuxième exemple. Troisième exemple, toujours à Santander. Alors ici, on a un front de baie que j'ai appelé une zone de patrimoine archéo-industriel parce que certaines personnes ont utilisé ce mot, qui est en train d'être redéveloppé. C'est l'ancienne zone portuaire plus industrielle de Santander. Et ici, vous voyez, nous sommes assez à l'abri de la baie. Hein, là, il y a la l'extrémité de la lande sableuse. La presqu'île, elle est là, on ne la voit pas. Eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est que, en fait, une multiplication des vents longs du niveau marin combiné à la multiplication des vents venant du sud menacera ce front de baie. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on interroge des gens qui font plutôt de la recherche, donc il y a les vents du sud, la population nous parle des vents du sud et de vagues hautes et serrées, donc un vent du sud qui descend de la montagne là et qui vient augmenter la pression ici sur le front de baie, on ne parle pas beaucoup des tempêtes venant de l'Atlantique. Et pourtant, les chercheurs, eux, nous parlent de tempêtes venant de l'Atlantique. Et donc là, on a une tension qui s'installe au niveau de la causalité. Pourquoi ce contre-style est-il en danger? Est-il en danger en raison de l'augmentation des eaux de tempête venant de l'Atlantique ou bien simplement en raison d'un vent local lié à la topographie, qui est un vent du sud qui lève ces vagues courtes, serrées, très énergiques, mais très serrées, très courtes. Et donc, on est dans un lieu de causalité contestée. Par contre, au niveau de la pertinence, ils sont en train d'investir énormément d'argent là, ça leur semble important de protéger ces investissements. Finalement, sur une question normative, ce qu'on entend les gens dire, c'est que cette zone est une zone importante pour eux, mais qu'ils ne voudraient surtout pas qu'en la protégeant, on fasse disparaître son identité, en mettant des blocs de béton, ou Dieu sait quoi. Et donc, ils ne sont pas sûrs, en fait, leur position en termes de valeur par rapport à la protection est conditionnelle au type de protection que l'on va mettre en place. Et donc ça, c'est encore un cas différent. On n'a pas de contestation sur la pertinence, mais sur la causalité, on a de grosses interrogations sur de quoi doit-on protéger ce lieu, des tempêtes de l'Atlantique ou du vent qui vient du sud. Et le choix des options elles-mêmes compte pour les gens en termes de valeur. Et donc, ceci est une photo prise de la baie de cette zone-là. Toutes les photos ont été prises par notre équipe, et donc je peux vous les présenter comme ça. Eh bien, c'est que la dissonance, elle va naître de questions de causalité et de valeur, et il faudra de nouveau que ces tensions se résolvent. De nouveau, je ne suis pas capable de prédire l'avenir. Ce n'est pas l'objet ici. L'objet ici est de permettre aux choses de se déployer d'une façon qui tiennent en compte les représentations de la population, de la communauté côtière, en termes de causalité, en termes de pertinence et en termes de valeur. Avec ces quelques exemples, ce que j'ai voulu illustrer, c'est qu'il pouvait y avoir des cas où aucune tension n'existait et où on pouvait imaginer une gestion apaisée du risque émergent, des attitudes poussant à une adaptation raisonnée. Mais que, parfois, les gens ont des doutes sur la pertinence d'une action, l'adaptation étant une action. Parfois, des gens ont des doutes sur la causalité un peu. Mais parfois, les gens sont inquiets de voir leur référent dominant, leurs normes, les normes qui les caractérisent, et bien menacées par une option de gestion. Et que lorsque ces tensions s'installent sur un de ces trois coins, ou lorsque des tensions s'installent entre une de ces paires, et bien à ce moment-là, l'action sur le terrain va devoir se faire avec ce que j'appelle une certaine finesse. Finalement, il y a d'autres résultats qui nous avons trouvé très intéressants. Premier résultat supplémentaire, c'est que très souvent, en termes quantitatifs, les revendications normatives dominent les discours des acteurs. C'est-à-dire les acteurs nous parlent beaucoup plus de questions de morale que de questions de causalité, de fonctionnement du risque, que des questions économiques. C'est intéressant parce que c'était un peu inattendu dans la mesure où souvent on fait des analyses coûts-bénéfices avant de mettre des infrastructures, et bien c'est pas ça tellement qui les intéresse. La deuxième chose, c'est que pour les acteurs, les revendications portent toujours, souvent, très souvent, j'ai envie de dire toujours, mais il y a une exception que j'ai en tête, sur simultanément le risque et l'option envisagée. Et donc les deux doivent être, dans le cadre des analyses, analysés en termes séparés. C'est que si associer à un risque une option s'impose dans leur esprit, eh bien c'est cette option qui sera jugée. Par exemple, dans la plage avec le lotissement liquide dans l'eau, le risque est associé à une action collective. Et c'est ça qui les gêne, c'est l'action collective. Pas le risque lui-même, le risque est neutre en termes moraux. Mais ces actions collectives les gênent parce que l'exposition au risque est le produit d'un comportement opportuniste. Donc, difficile de faire les deux. De la même chose dans la petite bande là, de patrimoine archéo-industriel, lorsqu'ils envisagent le risque, eh bien, ils envisagent immédiatement le type d'option, et selon le type d'option, ils conditionnent leur accord au fait qu'il ne faut pas que les options de gestion du risque dégradent la qualité esthétique de cette option. Et le dernier résultat, c'est que très souvent, les acteurs ont des représentations non déterministes du fonctionnement du risque. Ils voient le système côtier comme un système complexe. Or, très souvent, une catégorie spécifique d'acteurs voit le système côtier comme un système déterministe, je pense aux chercheurs. Et donc là, il y a aussi un dialogue entre sens et société sur la représentation paradigmatique du système qui doit être établie. Je vais conclure à présent. Alors, on a donc essayé de vous présenter ici une application de notre cadre conceptuel et méthodologique pour appréhender les attitudes des acteurs par rapport au risque côtier auquel une communauté fait face, dans cette idée que les attitudes vont déterminer leur volonté à passer à l'action d'adaptation. Et notre objectif, fondamentalement, c'est que s'il y a intervention, celle-ci se passe dans un cadre respectueux des révisions paradigmatiques, causalité, respectueuse des contraintes de moyens et respectueuse des valeurs locales au sens large, locales pour ce qui intervient sur le lieu. Chaque cas sera différent, il est important de ne pas s'imaginer que le cas de Santander est transposable à tous les lieux. Nous l'avons testé dans civil, dans les civils. Au sens méta, on a les mêmes résultats, mais au sens détaillé, évidemment, ça dépend de chaque objet qui est en risque, de chaque enjeu, et puis de chaque représentation sur l'avenir, en termes d'onde de tempête, etc. Et finalement, l'ensemble des travaux qu'on a présentés ici sont regroupés par beaucoup de gens comme des formes d'analyse des perceptions, mais c'est une forme qualitative qui vient se poser en alternative aux enquêtes traditionnelles qui nous semblent ne pas être en mesure de capturer ce que nous avons capturé ici. Alors, comme dans les deux autres présentations, je vous reparle des références, 40, tension, culture, compréhension des phénomènes, mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia, une étude de cas très détaillée liée à un événement réel dramatique. L'ouvrage d'Ortwin Rehn sur la gouvernance du risque, où tous ces concepts sont repris de façon beaucoup plus détaillée. Et puis le rapport que j'ai établi avec mes collègues pour faire ce travail. Et donc, comme dans les autres présentations, je vais passer aux remerciements. Alors, d'abord, les travaux que j'ai eu l'honneur de vous présenter là ne sont pas le produit de moi tout seul, j'ai été terriblement aidé par Juan Bastan de Marine Science for Society et Pedro Diaz Sima de l'Université de Cantabri. Et bon, évidemment, j'ai travaillé avec eux. Les résultats qu'on a présentés et obtenus ont été financés dans le cadre du 7e programme cadre de la Commission européenne pour le développement de la recherche et de la technologie, le contrat 24104, et nous les remercions vivement ici. Finalement, pour intégrer ce module dans le module plus vaste sur l'adaptation en milieu côtier, eh bien, nous avons pu réaliser une mission de coordination vers l'université, je pense à du Québec à Rimouski, de façon à ce que la contribution française puisse bien s'y intégrer. Et là, je dois remercier l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, mon université, qui nous a financé dans le cadre du programme Bonus Qualité Internationale, appel d'offres 2013-2014. Mais surtout, je dois vous remercier, vous, d'avoir prêté attention. Merci et à bientôt dans d'autres leçons vidéographiées, j'espère.
Voilà, vous avez terminé maintenant, c'est la troisième partie de cette leçon en trois parties. Alors, je réalise que ça a été un peu long, que regarder une vidéo en ligne n'est pas toujours facile, mais voici mon espoir à la fin de cette leçon. Mon espoir, c'est que vous vous sentiez, vous, mieux équipé pour faire face à la diversité des contraintes économiques, la diversité des valeurs, la diversité des compréhensions du fonctionnement du système côtier que l'on peut trouver au sein d'une communauté côtière, et que vous vous sentiez plus à l'aise pour intervenir d'une façon qui soit respectueuse de cette diversité. J'espère vous rencontrer bientôt, ou un jour en tout cas, dans l'une ou l'autre zone côtière, où nous pourrons discuter, partager nos expériences et voir si réellement cette leçon vous avez été utile. À bientôt, j'espère.